Alors bonsoir à tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Nous avons vu 72 livres de la Bible et ce soir on va voir le 73e, le livre de l'Apocalypse. J'ai passé 8 ou 9 ans au Cameroun, j'enseignais entre autres le catéchisme là-bas. Et un jour, on pose la question comme ça aux enfants, et les petits Camerounais ils connaissent très bien la Bible. Alors, j'avais posé la question, quel est votre livre de la Bible préféré? Et puis, il y a un petit qui a dit l'Apocalypse. Alors, je me suis dit, waouh, là, on a un mystique, vraiment. Alors, j'ai demandé, pourquoi tu aimes l'Apocalypse? Et puis, il m'a répondu, parce qu'il y a plein de grosses bêtes. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de monstres, il y a plein de grosses bêtes dans l'Apocalypse, et ça rend la chose un peu difficile à comprendre. Et pourquoi toute la Bible se termine comme ça, avec des monstres et des choses aussi apparemment horribles. On reprend notre bibliothèque. Vous vous souvenez qu'on a en fait une bibliothèque avec 4 étagères pour l'Ancien Testament, 4 étagères pour le Nouveau, et ça correspond pas mal. Dans l'Ancien Testament, vous avez 5 livres fondamentaux, les 5 fondamentaux, le Pentateuque. Après, vous avez des livres historiques. Après, vous avez des livres de sagesse, et puis vous avez des livres prophétiques. On a vu que ça se structurait comme ça. Et si on regarde le Nouveau Testament, on a à peu près la même structure. On a non pas 5, mais 4 livres fondamentaux, les 4 évangiles. On n'a pas plein de livres historiques, mais on a les actes des apôtres. Après, on a des livres doctrinaux, les lettres de Saint Paul, et puis les lettres catholiques. Et puis on termine par un livre prophétique. Toute la Bible se termine par une prophétie, le livre de l'Apocalypse. Alors donc, on a 46 livres pour l'Ancien Testament, 27 pour le Nouveau. Et vous voyez que ça commence maintenant, j'espère, on en parlait à table. Pour beaucoup, j'ai l'impression que ça aura mis un petit peu d'ordre. Quand on est face à la complexité, on a besoin de ramener à l'unité. Et c'était un peu le but de ce parcours, de passer du multiple à l'un, de saisir l'unité dans toute cette multiplicité qui peut nous perdre à travers cette bibliothèque biblique. Le tout dernier livre de la Bible, c'est donc le livre de l'Apocalypse. On a commencé par la Genèse, l'alpha, on termine par l'Apocalypse, l'oméga. La Genèse nous dit l'origine, l'Apocalypse nous dit le terme. Donc, vous voyez, on passe vraiment de l'alpha à l'oméga. La Genèse répond à la question, d'où est-ce que je viens? D'où venons-nous? L'Apocalypse répond à la question, où allons-nous? Où est-ce que je vais? Et on a besoin, en fait, d'un récit. Un récit qui part d'un point de départ et qui va à un terme. Tout homme a besoin de récits pour trouver du sens à sa vie. Pour comprendre ce qui se passe dans le monde, on a besoin d'une histoire, on a besoin d'un narratif. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Pourquoi nous y allons ensemble? Que doit-on faire de sa vie? Quel est le sens de la vie? Eh bien, pour répondre à cette question, on a besoin d'une histoire avec un commencement et une fin pour voir où est-ce qu'on s'inscrit dans cette histoire. Quand nous cherchons le sens de notre vie, nous voulons une histoire qui nous explique ce qu'il en est de la réalité et ce qu'il en est de notre place dans le drame cosmique. Nous nous situons où dans l'histoire du monde? Vous voyez, les hommes au XXe siècle, qu'ils soient croyants ou pas, ont eu le choix entre 3 grands récits. Vous avez eu le fascisme, vous avez eu le communisme, vous avez eu le libéralisme. Au fond, les 3 grands récits, les 3 grands narratifs du XXe siècle. La Seconde Guerre mondiale a éliminé le récit fasciste. La fin des années 40, disons, à la fin des années 80, le monde a été une sorte de bataille d'Armageddon entre le récit communiste et le récit libéraliste. Et puis finalement, le récit communiste s'est effondré et il n'est plus resté que le récit libéral. Alors ce récit nous raconte une histoire qui fait que l'homme, depuis des millénaires, chercherait à être libre et qu'aujourd'hui, enfin, les hommes auraient accédé à la liberté économique, à la liberté morale, à la liberté de penser. Alors bien sûr, il y a encore quelques talibans quelque part, il y a encore quelques tyrans par-ci par-là, mais le mouvement de l'histoire va dans le sens de toujours plus de liberté. Cependant, dans les années, disons, ça c'est devenu le mantra mondial dans les années 90 à 2000, mais il s'est passé la crise financière en 2008 qui a mis un petit coup dans ce récit. Aujourd'hui, on a refait un peu des murs, on a refait des États qui se replient sur eux-mêmes, et on peut dire qu'avec le Brexit en 2016, on a assisté au fond à la fin du récit libéral. De sorte qu'en 1940, les hommes avaient le choix entre trois récits. En 68, il n'y avait plus que deux récits. En 89, il n'y en avait plus qu'un. Et aujourd'hui, il n'y en a plus. Or, se trouver soudain sans grand récit pour expliquer sa vie est terrifiant, en fait. Parce que si je n'ai pas de récit, je n'ai pas de sens. Et c'est là que la Bible va être intéressante. La Bible, en général, nous donne un grand récit. Et l'Apocalypse en particulier va nous donner aussi un condensé du récit de l'histoire humaine et va nous dire où est-ce que nous nous situons. L'Apocalypse, c'est une lumière pour comprendre le sens de tout ça. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Le mot Apocalypse, il veut dire révélation. Alors, si vous tapez Apocalypse sur Google, vous n'aurez pas ça. J'ai tapé Apocalypse. Première chose qui arrive, c'est Apocalypse Now, le film de Francis Ford Coppola, excellent d'ailleurs, mais qui donne une vision de l'Apocalypse, vous voyez, au sens de catastrophe, d'horreur. Je crois que c'est le dernier mot du film, d'ailleurs, c'est Marlon Brando au moment où il est assassiné qui dit « Horror ». Ça se termine comme ça. Donc après, vous avez un autre site, vous tombez assez vite sur une avalanche de bombes nucléaires. Apocalypse, c'est pandémie mondiale, c'est même des invasions de zombies, vous cherchez. Si vous demandez aux gens qu'est-ce que c'est Apocalypse pour vous, ils vont dire Apocalypse, c'est catastrophe. Sauf qu'en grec, vous avez un mot pour dire catastrophe. Le mot catastrophe vient du grec, d'ailleurs, c'est catastrophé en grec, tout simplement. Donc, ce n'est pas catastrophe, Apocalypse. Littéralement, apocalypsis, c'est enlever le voile, révélation, révélare, hein, retirer le voile, tout simplement. Donc, c'est un moment de révélation et ça commence comme ça, révélation de Jésus-Christ que Dieu a confié pour montrer à ses serviteurs ce qui va arriver bientôt. Alors c'est vrai, ce livre est plein de grosses bêtes, plein de monstres, plein de choses étranges et effrayantes, plein de récits catastrophiques éventuellement. Mais ce qu'on va essayer de voir, c'est que c'est en fait un livre fantastique pour booster l'espérance et nous faire vivre en victorieux. Et c'est pour ça que toute la Bible ne se termine pas par une catastrophe, sans quoi la bonne nouvelle se terminerait par une mauvaise nouvelle. Dieu a mieux à nous offrir pour terminer la Bible qu'une mauvaise nouvelle. Il y en a qui regardent la Bible comme ça. J'ai lu un exégète qui considérait qu'il y avait eu un Judas dans les 12, il fallait bien qu'il y ait un livre qui soit le Judas du Nouveau Testament. Il dit que l'Apocalypse est comme le Judas du Nouveau Testament, il trahit la bonne nouvelle en nous annonçant en fait une mauvaise nouvelle. C'est pas ça du tout. C'est pour ça que ça commence comme ça. Heureux celui qui lit ce livre. Quand même le seul livre de la Bible où il y a écrit « Heureux celui qui lit ce livre ». Alors, je ne sais pas si vous le lisez ou pas. Si vous n'êtes pas heureux, essayez de le lire. Heureux celui qui lit ce livre. Alors, je dis souvent, heureusement, qu'il n'est pas dit « Heureux celui qui comprend ce livre ». Est-ce que c'est vrai qu'on n'y comprend pas grand-chose ? Le plan est pourtant simple. C'est le plan qu'on va suivre ce soir. Vous avez un prologue, Apocalypse 1, 1 à 12. Vous avez un épilogue, Apocalypse 22, 10 à 21. Et puis au milieu, il y a des visions. Donc vous pouvez dire, voilà, il y a trois grandes parties. Une introduction, des visions, une conclusion. Alors vous pouvez évidemment après subdiviser toutes les visions. Là, ça devient plus compliqué, je ne vais pas le faire ici. On va s'en tenir ce soir à trois grandes parties. Le prologue, une des visions, la plus importante, et puis l'épilogue. Alors ça commence comme ça, prologue. Révélation de Jésus-Christ. Alors c'est déjà très intéressant, parce que Jésus-Christ, maintenant, il est au ciel. Et on n'a qu'un seul livre de la Bible qui nous parle de Jésus au ciel. On a eu les évangiles qui nous parlent de Jésus sur terre. Mais c'est comment maintenant dans la gloire ? Il est comment dans la gloire ? Eh bien, c'est l'Apocalypse qui nous le dit. Nous avons une vision de Jésus dans la gloire. Révélation de Jésus-Christ, pourrait dire, dans la gloire. Alors notez que de Jésus-Christ, vous pouvez le traduire soit comme un accusatif, soit comme un génitif. Révélation de Jésus-Christ, si je prends au sens de l'accusatif, c'est révélation au sujet de Jésus-Christ. Donc l'Apocalypse me parle de Jésus. Si vous le prenez comme un génitif, c'est Jésus lui-même qui se révèle. Révélation de Jésus-Christ, c'est lui qui se révèle. Donc si vous voulez faire une synthèse des deux, vous dites, c'est Jésus qui nous parle de lui. Révélation de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui nous parle. Et de quoi il nous parle ? Ben, de ce qu'il connaît le mieux lui-même. Révélation de Jésus-Christ. Alors déjà, ça vous donne une lecture christologique. Ce n'est pas une histoire de fin du monde. Ce n'est pas ça d'abord. C'est Jésus qui se révèle. Et il se révèle comment ? Il se révèle comme celui qui est présent au milieu de tout notre bazar. D'ailleurs, il y a une scène dans Apocalypse Now que j'aime bien, plus que horror à la fin. C'est un moment où vous avez un capitaine qui arrive, ils sont au milieu du napalm, enfin c'est le chaos total. Et c'est une phrase toute bête, mais il arrive, il dit « Is anybody in charge here ?» Est-ce que quelqu'un in charge, est responsable dans cette situation ? Eh bien l'Apocalypse me dit oui. Il y a quelqu'un qui est responsable de tout ça, qui est au milieu de tout ça et qui contrôle la situation. C'est le Seigneur. Et c'est en ça que c'est une bonne nouvelle. Alors l'idée, c'est que Dieu me parle, révélation de Jésus-Christ, et il me dit, je suis là, au milieu de toutes tes catastrophes. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confiée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt arriver. Oui, c'est le bientôt, l'Apocalypse. Et ça nous aide quand on est dans des grosses épreuves et que quelqu'un nous dit, t'inquiète pas, c'est bientôt fini. Bientôt, tu vas voir la victoire. Eh bien, ça nous maintient dans l'espérance. Donc, le livre de l'Apocalypse, c'est le livre du bientôt de Dieu, qui ne cesse de nous dire, je viens bientôt. Révélation de Jésus-Christ que Dieu a confiée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il l'a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Donc là, on connaît l'auteur, c'est Jean. Alors évidemment, les exégètes vont dire, est-ce que c'est le même que l'Évangile, est-ce que c'est même que les Épîtres ? Ok, c'est très intéressant au point de vue exégétique et pas facile, c'est vrai. Mais traditionnellement, on a plutôt considéré que c'est le même. Quand on fête Saint Jean le 27 décembre, on prend un peu tout en même temps. Et prenons-le comme ça, indépendamment de l'aspect purement scientifique. Et c'est intéressant à ce moment-là, ça voudrait dire que Jean l'apôtre a écrit l'Évangile, il a écrit les Épîtres, il a écrit l'Apocalypse. Ça veut dire qu'il couvre le domaine historique, le domaine doctrinal, le domaine prophétique. Vous pouvez faire une catéchèse rien qu'avec Saint Jean, en fait. Il couvre le domaine doctrinal avec les Évangiles, ou disons le domaine... historique plutôt avec les évangiles, là il va nourrir notre foi. Il couvre le domaine doctrinal, spécialement en morale, avec les épîtres, et il va nourrir à ce moment-là notre charité. Et puis avec l'Apocalypse, il va nourrir notre espérance. Foi, charité, espérance, les trois vertus théologales que vous pouvez nourrir particulièrement avec l'évangile de Jean, avec ses trois épîtres, mais surtout la première, et puis avec l'Apocalypse. L'Apocalypse, pour Jean, c'est le grand livre de l'espérance. Et on va le voir pourquoi. Jean atteste, comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit en elles, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie mineure, à vous grâce et paix de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à lui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Allez, ça commence comme ça. Jean. Après, il va dire pourquoi il est là, mais ça, on va y venir. Ici, le verset 5 m'intéresse. J'aime beaucoup quand il dit « à lui qui nous aime ». Vous voyez qu'au cœur de l'Apocalypse, tout d'un coup, il n'y a pas que des catastrophes, il y a « à lui qui nous aime ». La gloire, la souveraineté pour les siècles des siècles. Vous vous souvenez quand on avait fait l'introduction à la Bible, donc le premier topo de ce parcours, je vous avais raconté l'histoire de Karl Barth, ce grand théologien qui en 1962 a fait une tournée et a enseigné à Chicago. Puis à la fin, quelqu'un lui a posé une question comme ça, un peu ingénue. « Docteur Barth, est-ce que vous pourriez me résumer toute votre théologie en une phrase ?» Alors qu'il a 30 volumes dans une bibliothèque. Il a dit « Yes, I can ». Et je vais vous le faire avec une chanson que j'ai apprise sur les genoux de ma mère. Jesus loves me and this I know, for the Bible tells me so. Jésus m'aime et ceci je le sais parce que la Bible me le dit. Mais en fait, toute la Bible, c'est cette révélation, Apocalypse, de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est pour ça qu'on le trouve dès le début de l'Apocalypse, à lui qui nous aime, gloire et souveraineté pour les siècles des siècles. Puisqu'il nous aime, je me mets à genoux devant lui et je l'adore. Parce qu'il nous aime, mais il est glorieux, il est notre Dieu. Donc au fond, c'est un livre à lire à genoux, presque l'Apocalypse. Si vous voulez entrer dans l'Apocalypse, lisez-le carrément à genoux, en adorant à chaque fois que vous voyez qu'il y a une doxologie, qu'il y a un moment de gloire, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Toute l'Apocalypse est pour nous mettre à genoux et pour adorer celui qui vient. Voici qu'il vient sur les nuées, tout œil le verra, ils le verront ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Vous voyez, là, on a le récit. Je suis l'alpha et l'oméga. En moi, tu as toute l'histoire. En moi, tu as toutes les réponses. Donc il est le principe explicatif de tout. Et tout homme un jour comprendra que c'est lui l'unique récit véridique. Tout œil le verra, ils le verront ceux qui l'ont transpercé. Ça veut dire que pour nous la victoire est certaine. Nous sommes des victorieux dans le Christ, d'ores et déjà. Et voilà ce que l'Apocalypse veut nous révéler. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire de Dietrich Bonhoeffer, ce grand théologien protestant qui a été... pris par les nazis pendant la guerre et qui a été fusillé au camp de Flossenbürg en 1942. Il a pu mettre juste un message à un ami anglican, un pasteur, et il a mis sur une phrase « La victoire est certaine ». Ben, j'aurais envie de dire que c'est ça l'Apocalypse. Vous lisez l'Apocalypse, vous dites « La victoire est certaine ». Et pourquoi c'est si important de l'entendre? Jean nous le dit. « Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté, la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Là, il nous donne le contexte. Jean a une vision, à quel moment? À un moment où il se trouvait sur l'île de Patmos. Alors, si vous tapez Patmos aussi sur Google, vous trouvez un site. Le premier que j'ai trouvé, c'est le site Hellenica, donc un site pour les amoureux de la Grèce. Et je lis ce que j'ai entendu. Vous voyez, Patmos est sans conteste l'une des plus belles îles du Dodécanèse et l'une de nos îles coup de cœur. C'est une île aux plages magnifiques qui attire les habitués venus des quatre coins du monde pour son ambiance chic et cosmopolite. Alors autant vous dire qu'à l'époque de Jean, ce n'était pas chic et cosmopolite et que ce n'était pas pour lui un coup de cœur d'être là, puisque c'était le bagne en fait. C'est une île assez éloignée et c'est là qu'on envoyait mourir ceux qu'on ne voulait pas tuer, martyriser publiquement. Pourquoi? Parce qu'il était sans doute assez populaire, Jean, et que les gens se seraient révoltés s'il avait vu que Domitien, le tyran de l'époque, l'éliminait comme ça. Donc il a préféré l'exiler là-bas, comme ça on n'en parle plus. Mais imaginez donc dans ce contexte de persécution ce pauvre Jean. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Tous les apôtres sont morts. Pierre a été crucifié, ils sont tous martyrs. Le seul qui n'est pas martyr, le seul dépositaire de tout l'enseignement de Jésus, c'est Jean. Il a vécu 3 ans avec Jésus, il a été au pied de la croix. Tous les autres sont morts. Donc, tout l'enseignement du Christ, il en est le dernier témoin. Et voilà, exilé, il ne peut rien en faire. Et il sait que les autres chrétiens, ceux qui ont à peine embrassé la foi chrétienne, sont déjà martyrs. Et lui, il doit être dans un état de déréliction totale. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour mes frères? Et c'est pour ça qu'il se présente. Il se présente, moi, votre frère et compagnon dans l'épreuve. C'est pas mal, si vous avez des épreuves, invoquez Jean. Il dit, je suis votre frère et votre compagnon dans l'épreuve. Je crois que Jean ne le prie pas assez. Si tu es vraiment mon frère et mon compagnon dans l'épreuve, il va falloir que tu m'aides. Il va falloir que tu m'aides à traverser. Et vous comprenez qu'à ce moment-là, Jean, qui est à Patmos, dans cette île où il est réduit à l'impuissance, il doit se demander à quoi bon tout ça. Comme quand il était au pied de la croix et qu'il voit Jésus mourir. Je crois que c'est la deuxième fois qu'il agonise, Jean. Il a eu sa première agonie quand il a vu le maître mourir au pied de la croix. Et il a une autre agonie un peu plus tard, quand il ne comprend plus ce qui se passe avec l'Église. Ça peut nous arriver, ça. Et du coup, tout d'un coup, il a une vision. Et ces visions, vous le comprenez bien alors, vont être des consolations. Jean va avoir la consolation. Dieu est en train de lui dire, je suis là, t'inquiète pas, I am in charge. Everything is under control. Oui. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, toutes les églises du Moyen-Orient de l'époque. Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu. Alors c'est bizarre de se retourner pour regarder la voix. Ne cherchez pas toujours la logique. Normalement, on se retourne pour regarder un visage. On tend l'oreille pour la voix. Là, il se retourne pour regarder la voix. Va comprendre. Mais ce qui est important, c'est que m'étant retourné, j'ai vu. Et là, on entre dans les visions. Deuxième partie de l'Apocalypse, ce mot sera répété 24 fois. J'ai vu. Et Jean, tout simplement, nous dit ce qu'il a vu. Il n'interprète pas. D'un coup, il nous dit qu'il a vu un agneau avec sept têtes, avec sept yeux, sept cornes, etc. Et il nous dit qu'on comprend que c'est Jésus. C'est pas pour ça que Jésus ressemble à ça au ciel, enfin, j'espère. Ce qu'il voit, il le dit, tout simplement. Et à nous de l'absorber. On ne comprend pas tout de suite. Vous voyez, par exemple, vous pouvez parler du diable. Ce n'est pas la même chose de faire un cours de théologie, de démonologie sur Satan, et de dire, il a vu un dragon. Vous voyez, dragon, ça évoque quelque chose, ça crée de l'affect, ou un serpent. Ça crée de l'affect. Satan, ça ne crée pas d'affect. Diable, c'est un concept. Mais quand on vous donne une image, tout de suite, ça implique votre affectivité. Et c'est pour ça que l'Apocalypse, c'est une sorte. Il faut une intelligence affective pour entrer dedans. Il faut se laisser prendre jusqu'aux tripes pour commencer à entrer dans les images. Et ces images, à ce moment-là, deviennent parlantes. Pas chercher à faire un rébus. Ça, c'est ça, ça, c'est ça. Parce que à ce moment-là, c'est comme si j'avais le décodeur. Je décode en concept ce qui m'est donné en image. Je ne crois pas que ce soit ça la clé d'interprétation de l'Apocalypse. Il faut garder les images et s'en imprégner. Alors, deuxième partie, on a les visions. J'en prends qu'une. Le fameux chapitre 12. On dit que c'est le cœur théologique du livre. C'est une vision très importante pour comprendre la raison des combats que nous vivons. Je prends un petit peu avant le chapitre 12, 11-29. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de l'Alliance apparut dans le sanctuaire. Il y eut des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte et elle crie dans les douleurs et les tortures de l'enfantement. Donc on a une femme sur le point d'enfanter. On nous dit qu'elle est revêtue de soleil. Et elle enfante, on le dira plus tard, le berger de toutes les nations. Donc elle enfante le berger. Bon, ça a bien des chances de pouvoir être Jésus, ce berger. Donc on a une femme ici qui est celle qui met au monde Jésus. Alors on peut dire que c'est Marie, on peut dire que c'est l'Église, on peut dire que c'est notre âme quand on a la grâce et qu'on donne Jésus aux autres. En tout cas, j'aimerais bien ce soir le relier à Marie et à Genèse 3,15, puisqu'on était parti de là au début de ce parcours. Vous vous souvenez de cette histoire de la semence? Dieu parle au serpent et dit « La femme aura une descendance et cette descendance t'écrasera la tête. » Eh bien là, la femme, on l'a à nouveau. Celle-là sera appelée femme. Et Adam qui nomme Ève, la femme par excellence. Et on la retrouve, la nouvelle Ève, à la fin. Et elle va mettre au monde celui qui va écraser la tête du diable. En face d'elle, alors, un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune de ses têtes un diadème. Donc là, on a le diable. Vous voyez, c'est intéressant. Il est rouge feu, donc il est en colère. Pourquoi il est en colère? On va essayer de comprendre. Puis il a 7 têtes. La tête, c'est le symbole de l'intelligence. 7, c'est un chiffre parfait. Donc, il est parfaitement intelligent. Il a 10 cornes. 10 aussi, c'est un chiffre de perfection dans la Bible. Les cornes, c'est le symbole de la puissance. Donc, il est hyper puissant, hyper intelligent. On ne nous parle pas de son cœur. Il n'a pas de cœur, manifestement. Alors, c'est le problème. Quand vous avez quelqu'un qui est très intelligent, mais il n'est pas fort, pas trop inquiétant. Quand vous avez quelqu'un qui est très fort, mais il est un peu bête, pas encore trop inquiétant. Mais si vous avez un type qui est super puissant et super intelligent, là, vous êtes face à l'ennemi le plus redoutable qui soit. Sa queue entraîne le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Vous voyez la situation. Femme sur le point d'enfanter, donc dans la pire vulnérabilité qui soit. Et elle en face de lui, le dragon rouge feu en colère qui est là pour dévorer l'enfant quand il arrive. Vous imaginez la scène d'angoisse. Vous retrouvez ici donc le diable de la Genèse, mais sous la forme du dragon. C'est intéressant d'ailleurs au point de vue des symboles. Dans la Genèse, c'est le serpent. Dans l'Apocalypse, c'est le dragon. Ah, deux manières différentes de présenter la ruse, le démon. Le serpent, c'est la ruse, c'est le mensonge. Le dragon, c'est la peur. Et ça, retenez toujours ça. C'est deux grandes portes ouvertes pour le mal, pour le démon, si vous voulez. Le mensonge ou la peur. Ça, il faut vraiment lutter contre ça. On trouve déjà un principe ici dans le combat spirituel. Ça devrait être notre devise, vérité et confiance. Si vous avez dans votre vie vérité et confiance, vous bloquez les portes au démon. Parce que sa première technique, comme serpent, c'est le mensonge. Sa deuxième technique, comme dragon, c'est la peur. Il aime nous faire peur. Alors pourquoi il est en colère? Je crois que c'est pour deux raisons. D'abord pour intimider la femme et pour essayer de lui faire perdre la confiance en Dieu. Le démon aime nous faire peur, le mal nous fait peur, nous terrifie, et à ce moment-là, on rend les armes avant même de se battre. T'es le plus fort, je fais un pacte avec toi. Je pactise avec le démon, comme ça j'ai plus peur. J'entre dans tes troupes. Ça, c'est la première mauvaise réponse. Il m'a eu par la peur. Et donc, je pense que là, il veut intimider. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il est en colère. Il est vraiment en colère, en fait, parce qu'il sait très bien qu'elle va mettre au monde son ennemi. Il se souvient de Genèse 3:15. La descendance de la femme t'écrasera la tête. Donc, il est en colère par tactique et il est en colère parce qu'il a horreur de celui avec qui il doit lutter. On pourrait même faire une autre lecture. Alors tiens, c'est bizarre que le démon ici a l'air d'être en colère devant la femme enceinte, donc devant la fécondité humaine. Peut-être parce que le démon est stérile et qui jalouse l'homme et la femme qui sont féconds et qui, étant féconds, ressemblent à la Trinité. Lui ne ressemble pas, l'ange ne ressemble pas à la Trinité. Par la famille humaine, nous avons une ressemblance avec le Père qui engendre le Fils et qui ensemble engendre l'Esprit Saint. Le démon ne connaît rien à la fécondité. Et peut-être qu'il a été jaloux de l'homme qui a été créé avec la possibilité d'être fécond et qui, à ce moment-là, est plus à la ressemblance de Dieu que lui. Lui qui est le grand, le plus intelligent des Lucifer, le porte-lumière. Et tout d'un coup, il voit que le plan de Dieu de se faire homme, ça a dû le mettre en colère. Selon certains pères de l'Église, ça serait ça la révolte de Lucifer. Le fait de voir que Dieu allait s'incarner dans l'homme et a rendu l'homme fécond, et donc plus à l'image de la Trinité que lui, qui est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus puissant que nous. interprétation possible. Et en tout cas, il est en colère face à la fécondité. Malheureusement, je crois que quand on voit ce que la France a fait il n'y a pas très longtemps pour introduire l'avortement dans la Constitution, on peut dire qu'effectivement, le démon est particulièrement en colère contre la fécondité dans le monde d'aujourd'hui. Et qu'on voit toutes les attaques sur la vie en général, il y a quelque chose ici de la colère du diable par rapport à la fécondité. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé d'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, il ne se passe rien. Il fait peur, mais il ne peut rien faire. L'enfant fut enlevé et la femme s'enfuit. En fait, c'était que du bluff. Le diable, quelque part, veut nous faire peur, mais il ne peut rien. Si on est enfant de Dieu, nul n'arrachera un enfant de la main du Père. Si nous sommes dans la main du Père, il ne peut rien contre nous. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, qui sera le berger de toutes les nations. Et vous avez la bonne nouvelle ici, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. On a ici Noël en fait. Elle met au monde un enfant et c'est Jésus. Deuxième bonne nouvelle, le dragon est en fait impuissant. Et vous voyez même dans l'évangile, au moment où Jésus est né, Hérode, certainement à suppos de Satan. Satan entre dans le cœur d'Hérode. Hérode veut tuer tous les enfants. Il veut s'en prendre en fait à Jésus. Et Jésus s'enfuit au désert en Égypte. Donc vous avez ici, sous un mode symbolique, quelque chose qui s'est déjà passé, qui aujourd'hui se passe encore et qui va continuer de se passer. On est avec l'Apocalypse toujours sur des archétypes, des paradigmes, des choses qui couvrent toute l'histoire. On peut reporter ce texte à l'histoire de Jésus. De fait, Hérode a voulu tuer Jésus et Jésus s'est enfui. Hérode était à ce moment-là le dragon rouge feu face à la femme enceinte. Et finalement, Jésus s'est enfui. Mais ça se reproduit à chaque époque. C'est comme une lecture verticale, vous voyez l'Apocalypse, vous pouvez lire à chaque fois, à chaque époque, vous pouvez relire ce qui se passe. Ce n'est pas chronologique. C'est une sorte de vision de sagesse sur ce qui se passe à chaque époque. Alors vous avez une deuxième scène ici. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel avec ses anges dut combattre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut jeté le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme diable ou Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il est rejeté l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu, phrase importante, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent témoins. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous aussi, et vous qui avez aux cieux votre demeure. Alors on a ce combat entre Michaël et le dragon, et Michaël gagne. En fait, moi je me demande, hein, Michaël en hébreu, ça veut dire qui est comme Dieu? Qui est-ce qui est comme Dieu? C'est Jésus en fait. Celui qui a vraiment vaincu le démon à la croix, c'est le Christ. Donc je me demande ici si Michaël n'est pas en fait un symbole de Jésus. Souvent on va dire, ah c'est l'ange Saint-Michel. Peut-être, première interprétation possible, je me demande si on ne peut pas aussi dire qu'en vérité, qui a pu battre le démon? Pas un autre ange. C'est le Christ à la croix qui a vaincu Satan, qui lui a écrasé la tête comme c'était promis. Et donc, qui est comme Dieu? C'est Jésus qui est comme Dieu. Et qui, à ce moment-là, renverse vraiment le pouvoir du diable. Apocalypse 12, 11 me semble très important. Je crois d'ailleurs, au point de vue narratif, compter le nombre de mots. C'est facile avec un document Word. Vous mettez l'Apocalypse sur un document Word et vous essayez de voir le mot qui est au centre. Alors, je ne l'ai pas fait, mais au pif, j'ai l'impression que ce qui est au centre, c'est Apocalypse 12, 11. Faites-le, vous me direz que je me trompe. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Je crois que ça, c'est très fort, en fait. Il est l'accusateur de nos frères. Effectivement, le démon nous accuse. On est tous pécheurs et face à Dieu, il dit, regarde, comme avec Job, hein, touche Job, tu vas voir, il va te maudire en face. Et il accuse toujours en nous la faiblesse, le péché, etc. Sauf que notre réponse à nous, c'est de dire, effectivement, non sum dignus, je ne suis pas digne. Je suis pécheur. Mais par contre, j'ai le sang de l'agneau pour me purifier. Et donc, ma réponse, ce n'est pas d'être digne. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais ton sang va me purifier de tous mes péchés. Donc, notre réponse à nous face aux démons qui pourraient nous accuser, c'est cette phrase ici. Ils sont vainqueurs par le sang de l'agneau. Ça, c'est notre gloire à nous. Nous avons été sauvés. Nous sommes des pardonnés. Alors j'en viens à l'épilogue. L'épilogue de l'Apocalypse, dernière page de la Bible. Donc le mot de la fin. Bientôt, on va entendre l'amen final. Dernière page de la Bible qui exprime en même temps la dernière page de l'histoire de l'humanité. Alors je vous lis ce texte majestueux. Puis l'ange me dit, ces paroles sont dignes de foi et vraies. Le Seigneur, le Dieu qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Voici que je viens sans tarder. Heureux celui qui garde les paroles de ce livre de prophétie. C'est moi, Jean, qui entendais et voyais ces choses. L'Esprit et l'Épouse disent viens, celui qui entend qu'il dise viens, celui qui a soif qu'il vienne, celui qui le désire qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et moi, devant tout homme qui écoute les paroles de ce livre de prophétie, je l'atteste. Si quelqu'un y fait des surcharges, Dieu le chargera des fléaux qui sont écrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève des paroles à ce livre de prophétie, Dieu lui enlèvera sa part. Il n'aura plus accès à l'arbre de vie, ni à la ville sainte qui sont décrits dans ce livre. Et celui qui donne ce témoignage déclare, oui, je viens sans tarder. Amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. La Bible se termine comme ça. Et là encore, je ne peux évidemment pas tout commenter, mais j'aimerais terminer par un verbe qui me semble en fait le verbe caractéristique du Nouveau Testament. C'est le verbe venir à l'impératif. Viens. L'Esprit et l'Épouse disent viens. Celui qui entend qu'il dise viens. Celui qui a soif qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et l'Ancien Testament se terminait, vous vous souvenez, par le mot anathème. Heureusement, ce n'est pas le mot de la fin. La Bible se termine par le mot viens. Et d'une certaine façon, toute la Bible se résume dans cette invitation. Tous les prophètes, tous les écrivains sacrés, tous les apôtres, tous les disciples de Jésus se rassemblent ici pour dire avec l'Esprit Saint, viens, Seigneur Jésus. On pourrait dire que le mot vient est comme la devise de la Nouvelle Alliance. La loi de l'Ancien Testament mettait la distance. C'était n'approche pas, ne touche pas l'arche, n'approche pas de la montagne sainte, ôte tes sandales. Le Nouveau Testament, c'est vient. C'est une loi d'attraction et non plus une loi de distance. Maintenant, il faut s'approcher. Le rideau qui nous séparait s'est déchiré. Maintenant, tu peux venir. Et non seulement il nous appelle, mais nous-mêmes, nous pouvons utiliser ce même verbe pour le lui rendre quelque part. Tu me dis de venir, moi je te dis viens. L'Esprit et l'Épouse disent viens, que celui qui entende dise viens. Alors c'est très intéressant si vous comparez maintenant le début de l'humanité, le début de la Bible et la fin de la Bible. Au début, Adam s'est caché. Vous n'imaginez pas que Adam, après le péché, aurait dit oui, viens, viens. Il s'est caché parce qu'il était nu. Et à la fin, l'humanité appelle le Seigneur en disant, viens Seigneur Jésus. Il fallait toute la Bible pour passer de la peur de Dieu au désir de Dieu, pour passer de la Genèse à l'Apocalypse. Alors je termine par l'image qu'on a derrière. L'image qu'on a derrière, c'est une représentation de Apocalypse 3.19, 3.20. Ceux que j'aime, je les semonce et les corrige. Allons, un peu d'ardeur et repens-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. Le tableau qu'on a exposé ici, C'est un tableau de Holman Hunt, qui est un peintre du début du XXe siècle, enfin il est mort en 1910, et ça s'appelle La lumière du monde. Et l'histoire de ce tableau est très intéressante, elle est racontée dans les cours Alpha par Nicky Gumbel. Jésus, lumière du monde, en fait, a été exposé 3 fois à Oxford, à Manchester City, et puis aujourd'hui, il y a un des tableaux qui est à la cathédrale Saint-Paul à Londres. Et lorsque la version de ce tableau, une des versions de ce tableau a été dévoilée, on voit, vous voyez, Jésus devant une porte ici. Manifestement, il y a des herbes, ça n'a pas été très bien entretenu. C'est l'homme qui finalement n'ouvre plus beaucoup la porte au Christ, n'ouvre plus beaucoup la porte à Dieu. Hein. Et Jésus frappe. Et quelqu'un a fait cette remarque au peintre, il lui a dit, vous avez fait une porte, mais vous avez oublié la poignée. Et il aurait répondu, non, non, ce n'est pas un oubli. C'est délibéré, il n'y a qu'une seule poignée à cette porte, elle se trouve à l'intérieur. C'est à nous d'ouvrir. Jésus frappe, mais il ne va pas défoncer la porte. C'est ce que dit saint Ambroise, et je terminerai ici avec saint Ambroise. Ouvre ta porte à celui qui vient, ouvre ton âme, élargis l'accueil de ton esprit, afin qu'il découvre les richesses de la simplicité, les trésors de la paix, la douceur de sa grâce. Dilate ton cœur, viens vers le soleil de la lumière qui éclaire tout homme. Sans doute la vraie lumière brille pour tous, mais celui qui ferme ses fenêtres se privera de l'éternelle lumière. Donc le Christ lui-même est laissé dehors si tu fermes la porte de ton esprit. Bien qu'il soit capable d'entrer, il ne veut pas s'introduire de force. Il ne veut pas contraindre ceux qui le refusent. Issu de la Vierge, il est sorti de son sein en rayonnant sur tout l'univers afin de briller pour tous. Ils le reçoivent, ceux qui désirent la clarté d'une lumière perpétuelle que la nuit ne vient jamais interrompre. Heureux donc celui à la porte duquel frappe le Christ. Notre porte, c'est la foi qui, si elle est solide, défend toute la maison. C'est par cette porte que le Christ fait son entrée. Écoute celui qui frappe, écoute celui qui désire entrer. Comprends avec quelle force le Dieu Verbe frappe à ta porte. Car il daigne visiter ceux qui sont exposés à l'épreuve et aux tentations, pour qu'ils ne risquent pas d'être vaincus et de succomber à leurs difficultés. Si ton cœur veille, il frappe, et il demande que tu lui ouvres la porte. Ouvre-lui donc. Il peut entrer, il veut trouver son épouse éveillée. Alors voilà, ce parcours s'appelait Ouvrir les Écritures. Peut-être qu'en ouvrant les Écritures, nous avons ouvert la porte à Jésus. Merci. Et bonne discussion.